De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Low-tech, comment faire plus et mieux avec moins? Mais que sont ces fameuses low-tech? Quel modèle et quel scénario s'inventent derrière ce concept qui promet une nouvelle économie et un mieux vivre? Dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le Présent, qui rassemble une fois par mois France Culture, Le Parisien, la revue Ouzbek Erika et le magazine Science et Vie Junior, nous avons choisi de questionner cet univers. La société dite high-tech a longtemps cru qu'elle pouvait s'appuyer sur la capacité des technologies pour répondre à nos besoins et à nos envies, mais la planète, elle, dit stop et n'a pas de sœur jumelle pour assouvir nos demandes. Alors, face à l'urgence et à l'augmentation de la population mondiale, des solutions se font jour, des initiatives émergent et viennent s'agréger derrière un nouveau logo, les low-tech. Leur slogan, faire plus et mieux avec moins, est-il le reflet d'une société rêvée en devenir ou bien l'annonce d'un monde rabat-joie qui réclame de renoncer à la surconsommation? À quelle échelle se joue cette mutation de nos vies quotidiennes? Réponse ce soir en direct avec nos deux invités. Philippe Biwix, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur centralien, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales et promoteur des low-tech, auteur d'essais sur les questions environnementales et notamment, je cite votre livre « L'âge des low-tech », un livre paru au Seuil. Et avec nous également ce soir Thibaut Faucon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur à la direction régionale Île-de-France de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et vous coordonnez le programme d'expérimentation de l'approche systémique de la transition écologique. Et puis dans l'œil du monde planète, la journaliste correspondante du journal Le Monde, Sophia Fischer, de retour de la vallée de la Roya, 6 semaines après la tempête Alex, nous livrera son choix info de la semaine. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, en direct, préparé par Anaï Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique ce soir, Marie-Claire Oumabadi.
Quand on passe effectivement d'une maison ou d'un appartement classique à une tiny house, on doit d'abord faire preuve de minimalisme et se séparer d'un certain nombre d'affaires.
À l'image de Céline, qui vivait jusque-là dans une maison de 200 mètres carrés.
Je l'ai fait en me disant, mais qu'est-ce que j'utilise au quotidien? Et puis tout ce que j'utilisais pas pendant plus de 6 mois, ben, je me disais, ben, c'est que finalement, j'en ai pas tant besoin que ça. Et puis, ben, de façon assez naturelle, tout s'est organisé et puis je m'y sens vraiment bien.
Depuis le printemps, elle vit donc dans ce petit espace sur mesure avec sa fille, au plus près des chevaux qui sont sa passion et sans avoir renoncé au confort.
Donc cette tiny,
elle a été pensée de façon à ce qu'il y ait des fenêtres des quatre côtés. C'est-à-dire où qu'on se trouve, où qu'on regarde, on ne se sent pas face à un mur.
Ce type de maison sur roulette peut être installé sans permis de construire et il faut compter un budget de 40 à 80 000 euros pour sa réalisation.
Je pense que cet habitat-là est amené à se développer d'une part parce qu'il correspond à un besoin un peu écologique. Hein. On parle assez des problèmes de réchauffement climatique et là c'est un habitat qui est à la fois extrêmement confortable mais qui au niveau impact sur la planète eh ben, est réduit aussi à son minimum.
C'était un reportage sur les tiny houses diffusé sur France 3 Franche-Comté le 16 février 2020. Et donc ces maisons, je vous le précise, sont à découvrir aussi dans le dossier complet hashtag Sauver le Présent, disponible sur notre site d'émission franceculture.fr. Passer à une vie low-tech, cela sous-entend, on l'a compris, de questionner nos besoins et nos envies. Philippe Biwix, c'est quoi les low-tech et d'où vient le concept?
Alors le concept, il est relativement ancien parce qu'on retrouve dès les années 70, par exemple aux États-Unis, des auteurs comme Ivan Illich, comme Ernst Friedrich Schumacher, l'auteur de Small is Beautiful, qui parlait de technologie intermédiaire ou de technologie appropriée, comme ça a été traduit en français. Donc je dirais que le mot low-tech, lui, il est plutôt peut-être apparu dans les années 2000, notamment avec un site d'un journaliste belge qui s'appelle Chris de Decker, qui avait lancé le Low-Tech Magazine, qui existe toujours d'ailleurs. Et en fait, c'est d'abord un pied de nez au high-tech, c'est-à-dire un pied né à la promesse de la réponse technologique, de la solution technologique à tous les enjeux qui peuvent être environnementaux, climatiques ou l'enjeu sur la consommation de ressources non renouvelables.
Donc ça veut dire que ce sont des techniques qui adoptent une démarche globale, c'est ça, avec cette prise en compte des besoins des hommes qui vont au-delà de la capacité de la planète à les satisfaire. Donc ça veut dire prendre en compte cette question-là, le réchauffement climatique, les pollutions, la neutralité carbone, la santé du vivant. C'est vraiment cette globalité auquel s'attachent les low-tech?
Alors oui, on pourrait dire qu'effectivement, il faut surtout pas essayer de réduire les low-tech à juste d'ailleurs un aspect de technique qui pourrait être d'ailleurs des techniques très très individuelles ou familiales, comme je sais pas le cuiseur solaire ou la chignole qui remplace la perceuse ou la machine à laver à pédale, hein, bien que ça puisse évidemment faire partie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Effectivement, ça peut être, on peut imaginer de parler demain de ville low-tech, on peut effectivement parler de système low-tech, peut-être même d'un internet low-tech, à condition de mettre une définition derrière qui soit pas uniquement une définition technique. Donc certes, effectivement, on peut prendre une définition technique en disant ce sont des choses, ce sont des objets, ce sont des services qu'on peut rendre avec une certaine capacité à durer, une certaine simplicité, une robustesse, une réparabilité, qui embarquent le moins possible de matières premières, qui vont le mieux possible les recycler en fin de vie, qui consommeront peu d'énergie, qui auront un impact environnemental faible, etc. Mais c'est aussi, et pour moi d'abord, une démarche. C'est-à-dire que et quand on prend plutôt cette définition de la démarche, alors on peut l'appliquer à l'ensemble des domaines, y compris des domaines très très high-tech, je dirais, comme la mobilité ou le numérique. Et cette démarche, c'est se poser pour moi trois questions. Une première question qui a été mentionnée dans le reportage, qui est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on consomme? La question de la sobriété ou de la frugalité. Et puis ensuite, une deuxième question qui est plutôt une question du quoi. Qu'est-ce que je vais effectivement pouvoir concevoir une fois que j'aurai décidé que je vais quand même fabriquer une machine à laver, par exemple. Et ensuite, il y a une question du comment, c'est-à-dire comment est-ce que ça va être fabriqué, dans quelles conditions environnementales et sociales, avec quelle part de travail humain par rapport au travail de la machine, quel degré de mécanisation, d'automatisation, de robotisation, etc. Et ce sont donc des guides, des questions guides, je dirais, et une des questions principales, c'est la question de l'utilité, évidemment, qui doit être posée. C'est-à-dire que on serait un peu stupide de renoncer au high-tech, je sais pas, dans le domaine médical, par exemple, où évidemment les progrès fabuleux seraient difficiles à contester. Mais est-ce qu'il faut appliquer ces progrès fabuleux aussi aux distributeurs de croquettes pour chat, quoi?
Thibaut Faucon, donc si on comprend bien les low-tech et le concept de décroissance, hein, on peut remonter au rapport d'Imidose, hein, commandé par le Club de Rome dans les années 70, on a le sentiment que ça va de pair. Donc ce modèle-là, le modèle d'une société extractiviste, productiviste, consumériste, non résiliente, mènerait dans une impasse. Et à partir de là, il faut imaginer un changement de logiciel, pas facile quand même, hein, sans être taxé de rabat-joie, on imagine.
Non, c'est effectivement quelque chose de pas simple. Nous-mêmes à l'ADEME, voilà, c'était assez compliqué. Ça n'a pas été simple d'essayer d'explorer en fait ce concept de low-tech. Et c'est pour ça qu'on passe par un programme d'exploration et aujourd'hui un programme d'expérimentation à travers un appel à projet. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est plutôt de présenter ça comme une stratégie, une démarche. Comme effectivement, comme l'expliquait Philippe, il n'y a pas aujourd'hui de définition, de label ou de cahier des charges qui vont définir très très précisément ce qu'est une démarche. Et donc, on préfère parler de stratégie low-tech, qui va permettre d'embarquer un certain nombre de notions, de limites, de finitude de ressources, de complexité du monde dans lequel on est et qui se raccroche en fait à une approche un peu systémique de l'innovation et qui va viser en fait à réduire l'intensité et la complexité technologique de notre société, enfin notre système socio-économique, avec deux finalités aujourd'hui non négociables, hein, d'ici à 2050, à savoir contribuer à la neutralité carbone et organiser la résilience des territoires à travers un réseau d'acteurs et de projets soutenables.
Donc cet appel à projet dit stratégie low-tech, d'innovation, c'est uniquement pour l'Île-de-France. Quels ont été finalement les candidats, qu'est-ce que vous avez relevé comme idées qui ont du coup été primées, hein, parce que si on comprend bien, vous, c'est un appel à projet et afin de permettre un financement de ces projets pour les rendre réalisables.
Oui, tout à fait. Alors, pour la première édition là, qui a eu lieu en 2020, on a sélectionné une dizaine de projets sur une vingtaine de candidatures. Alors, on a été très agréablement surpris par la qualité des projets et puis sur la diversité des projets. Donc, on a eu des projets qui portaient sur les thématiques de la mobilité, du bâtiment, de l'organisation des territoires aussi, mais aussi un projet assez original pour nous, qui est porté par la Fab Lab Makers, Villette Makers, mmh, et la société consulting, en partenariat avec l'établissement public du parc de la Villette, pour justement essayer de comprendre comment les institutions culturelles, les acteurs artistiques peuvent, du monde de l'art, peuvent s'approprier le concept de low-tech pour contribuer notamment à construire de nouveaux récits socio-techniques, économiques, mais aussi culturels, pour justement travailler nos imaginaires collectifs, qui sera nécessaire en fait pour passer à l'échelle en fait ces différentes initiatives low-tech qui aujourd'hui sont portées par un tissu associatif et de manière très locale. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de passer à l'échelle supérieure. Et donc on a besoin de relais, notamment du monde culturel, du monde artistique. Et les artistes ont véritablement un rôle très important à jouer.
Donc à la fois le plan imaginaire culturel et puis aussi le plan concret avec des projets qui permettent d'imaginer carrément des éco-villages durables, solidaires, décarbonés, résilients, un réseau d'incubateurs, des résidences humanistes et respectueuses de la nature. On sent qu'il y a une réflexion engagée et puis des actions en vue d'inventer un autre mode de vie. Mais alors quel autre mode de vie? Faire plus et mieux avec moins? Est-ce que tous les secteurs peuvent s'adapter? Je vous propose, avant d'en discuter, d'aller du côté du secteur routier et des infrastructures avec ce reportage diffusé sur France 3 le 3 juillet 2018.
Sur cette route, 360 poids lourds passent chaque jour, une chaussée vieille et dégradée que ces machines sont en train de casser. Le bitume est retraité avec un liant 100% végétal provenant de l'industrie papetière.
Le pain est utilisé pour fabriquer du papier, craft, et dans le cadre de ce procédé, il existe un résidu. Et ce résidu-là, nous, on l'utilise pour le mettre en émulsion parce qu'il est très compatible avec le bitume. Et donc, ça nous permet de faire une route neuve à partir d'un produit donc, qui, au départ, vient des arbres.
Moins coûteux que le bitume provenant du pétrole, le bitume biosourcé, une fois validé, pourra aussi servir d'exemple à d'autres départements.
Ce qu'on peut imaginer, c'est que la poix qui est issue des papeteries est plutôt produite effectivement sur le massif des Landes de Gascogne. Mais il est peut-être probable que d'autres types de liants puissent être trouvés, qui soient aussi issus de déchets d'économie circulaire. Et donc à ce titre, que nous puissions peut-être transférer ailleurs avec d'autres types de matériaux. Nous avons intérêt sur des équipements départementaux et de collectivités de façon générale à essayer de trouver les solutions les plus vertueuses. C'est aujourd'hui une question environnementale et nous devons être particulièrement responsables sur des questions comme celle-ci.
Le conseil départemental de la Gironde gère 6000 km de réseau routier.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Philippe Biwix, je me tourne vers vous, ce secteur routier, les infrastructures. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de reportage et de découvrir qu'il y a peut-être des possibilités, là aussi, un peu plus respectueuses de l'environnement.
Alors, il faut se méfier un petit peu. Je trouve qu'il y a des initiatives partout et surtout des envies partout et dans toutes les organisations, évidemment, puisque nous sommes tous de plus en plus tiraillés entre notre quotidien professionnel et puis le retour à la maison, quand on n'est pas confiné du moins, où on est tous citoyens, parents, etc. Donc, du coup, il y a les initiatives foisonnent et l'envie d'abaisser la facture environnementale, elle est partout. Et donc, tant mieux qu'elle soit aussi dans le monde du BTP, qui est peut-être pas effectivement celui auquel on penserait en premier. Cela dit, derrière ces belles initiatives et cette bonne volonté, il ne faut pas que ça cache le fait qu'on a un problème de volume. C'est-à-dire que si on voulait réellement faire l'ensemble, entretenir l'ensemble du réseau routier uniquement avec du géosourcé, ou de la même manière que si on voulait continuer à construire autant qu'on construit, mais avec des bâtiments à très bas carbone qui seraient par exemple en structure bois essentiellement, eh bien les quantités de disponibles n'y suffiraient pas, et de loin et très vite. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi à la fin du 19e siècle nous sommes extraits des contraintes surfaciques, c'est-à-dire justement des contraintes de la production de ressources renouvelables qui pouvaient être qui alimentaient les machines, qui alimentaient l'énergie, etc. Il faut savoir que les locomotives à vapeur, par exemple, étaient lubrifiées à l'huile de cachalot, d'accord. Donc, à un moment, vous n'avez plus assez de cachalot par rapport à votre nombre de locomotives et vous êtes content de trouver des lubrifiants qui vont arriver de la chimie du charbon ou de la chimie du pétrole.
Oui, donc quoi qu'il arrive sur ces questions et notamment la mobilité, il faut quand même revoir les choses
mais voilà, en fait,
en matière de décroissance.
Il va falloir se réinscrire dans les limites planétaires. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on veut faire parce qu'on a un problème à la fois climatique, de biodiversité et de ressources. Et pour faire ça, à un moment, il faudra travailler sur la question des volumes. Et donc, bien sûr qu'on peut entretenir quelques routes. J'ai pas de souci avec ça. Il faudra bien. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi les routes se dégradent. Elles se dégradent essentiellement par la circulation des camions, bien sûr. Et ces camions, eux, pourquoi est-ce qu'ils sillonnent l'Europe? Et donc, on pourrait ouvrir des questions d'un certain nombre de circuits courts, de relocalisation, pas de tout, évidemment. Mais de travailler cette question-là. De la même manière, par exemple, que dans le bâtiment, avant de savoir comment construire mieux, il faut d'abord savoir comment on pourrait construire moins, c'est-à-dire intensifier l'usage de l'existant. Alors pas forcément d'ailleurs en restreignant forcément le nombre de mètres carrés, comme dans le cas du passage de l'appartement de 200 mètres carrés à la tiny house, qui était
de 20 mètres carrés là.
De l'émission.
Il y en a de 15 mètres carrés aussi, mais de 20 mètres carrés, voilà. Je crois celle-ci.
Mais par exemple, en commençant par mieux utiliser les lieux, c'est-à-dire que quand vous avez des écoles de la République qui sont fermées le soir, qui sont fermées le week-end, qui sont fermées pendant les vacances, eh bien, et qu'à côté vous construisez la maison des associations, bah, peut-être qu'il y a une manière plus intelligente de dire tiens, je peux faire des choses et intensifier l'usage des lieux et mieux partager. Et donc quelque part, vous pouvez avoir aussi l'habitat partagé avant la tiny house, qui peut être aussi une manière de faire ça. Donc voilà. Et donc je suis toujours inquiet quand finalement on arrive avec des solutions techniques, certes tout à fait intéressantes et pertinentes, mais dans un usage potentiellement plutôt de niche et qui laisserait croire qu'on pourrait continuer à consommer autant finalement tout en abaissant la facture planétaire et en réduisant notre consommation de ressources renouvelables. Ça ne peut pas marcher si on ne travaille pas aussi sur le besoin à la source.
Le faire moins avec et mieux, du coup, plutôt que de chercher le plus. Thibaut Faucon, c'est vrai qu'on comprend qu'il faut, il y a un appel à moins consommer, moins gaspiller, limiter les emballages, réparer aussi, lutter contre l'obsolescence programmée. Finalement, c'est pour se poser cette question sur cette surconsommation que la planète ne peut pas supporter.
Oui, complètement, et je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Philippe. Moi, j'aurais envie de quand même d'insister sur la notion, la dimension organisationnelle en fait, d'une démarche, d'une stratégie low-tech, parce qu'il faut réfléchir aujourd'hui aux conditions qui vont permettre de pouvoir déployer des stratégies low-tech à plus grande échelle pour avoir un effet volume et un véritable impact. Et c'est pour ça qu'à travers cet appel à projet, nous, on a mis l'accent sur la dimension organisationnelle et pour essayer d'accompagner des projets qui vont nous aider à caractériser les nouveaux modèles organisationnels, que ce soit pour les villes ou les entreprises, voire éventuellement pour un État, un pays, et tous les impacts, les implications que ça pourrait avoir sur les processus internes organisationnels, pour favoriser donc ces démarches low-tech et in fine organiser la résilience. Par exemple, pour les entreprises, on a un projet qui est porté par Goodwill Management, qui est une société de conseil, et qui va accompagner un échantillon représentatif d'entreprises franciliennes pour intégrer des démarches et des solutions low-tech dans leur outil de production. Et par rapport à la forme juridique, à la forme organisationnelle, on a aujourd'hui le réseau des sociétés coopératives, les SCOP et les SIC, qui sont, à mon avis, des modèles de gouvernance qui sont intéressants à creuser et qui sont à mon avis, c'est très 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 compatible avec des démarches low-tech. Je pense notamment à une société comme Mobicop qui propose un service de covoiturage et qui fait en fait de la mobilité partagée un commun.
Et alors Thibaut Faucon, l'ADEME est là non seulement pour accompagner mais aussi pour sécuriser la transition parce que finalement beaucoup rêvent d'un autre mode de vie et de travail aussi probablement, mais s'ils ne sont pas sécurisés financièrement, ils ne changeront pas de mode de vie, c'est ce qui se comprend.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, aujourd'hui, on est très largement enchâssé dans un système socio-économique dont il est difficile de se départir. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est d'une part de définir, de caractériser quels seraient les métiers dits low-tech ou qui contribuent à construire, à organiser la résilience dans les territoires. Donc définir ces métiers et ensuite, bien évidemment, de construire les passerelles qui permettent de passer du système dans lequel nous sommes aujourd'hui, système économique qui est absolument pas soutenable, vers un système plus résilient. Et de essayer de construire un parcours d'accompagnement qui soit financièrement et socialement sécurisé, parce qu'aujourd'hui effectivement il y a plein de gens qui souffrent de bullshit job comme on dit et qui sont en pleine crise de sens mais qui ne peuvent pas se sortir de cette situation parce que ils ont plein de contraintes financières notamment qui les empêchent de franchir le pas. Donc c'est vraiment une de toutes ces passerelles-là qu'il faut réfléchir et qu'il faut construire dès aujourd'hui.
Philippe Biwix, vous questionnez aussi nos pratiques sportives. Vous allez loin, effectivement, dans votre livre, mais c'est intéressant, hein, ça fait réagir et ça questionne. Vous parlez de nos pratiques sportives, nos voyages, nos achats superflus. Il y a une position un peu peut-être radicale qui risque de voir des levées de boucliers. En un mot, vous expliquez aussi, et ça rejoint les propos de Thibaut Faucon, il faut que cette transition, pour être possible, il faut la rendre quand même désirable et donc désirée.
Oui, bien sûr. Alors c'est toute la difficulté parce que à date, ce qu'on nous a rendu désirable ou désiré, c'est la croissance. C'est la croissance parce que la croissance, c'est l'emploi, la croissance, c'est l'augmentation du bonheur. Et malheureusement, en fait, on sait tout à fait que c'est pas vrai. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on est dans la misère au départ, gagner un peu plus, avoir un peu plus de richesse. Et donc de PIB par habitant, c'est évidemment très très important pour et le confort matériel, un certain niveau de confort matériel est nécessaire. Mais ensuite, la courbe se s'aplatit et vous vous apercevez que le Qatari moyen n'est pas plus heureux que le Danois moyen ou que le Portugais moyen. Donc il y a quand même une question autour de ça. Alors le problème, c'est que profondément, on a un sujet de modèle économique. C'est ce que disait Thibault. Alors, c'est pas juste un modèle économique dans les entreprises, c'est un modèle économique général qui est fondé sur la croissance, qui permet de rembourser, de servir la dette, que ce soit les dettes des entreprises d'ailleurs, ou les dettes publiques, ou les dettes privées, qui permet de se payer les retraites, l'assurance maladie, et Dieu sait que c'est important en ce moment, etc. Or, cette croissance, alors c'est tout à l'heure le rapport Meadows était cité, bon c'était effectivement qui avait un petit peu montré que la croissance, enfin essayer de modéliser les interactions du système Terre et du système économique et qui avait conclu que on allait avoir du mal à faire de la croissance infinie dans un monde fini. Alors c'est une telle tautologie quand on dit ça, c'est que d'ailleurs Solzhenitsyn avait réagi et avait dit finalement il aura fallu attendre des savants occidentaux d'avant-garde pour apprendre ce que le moindre grand-père savait depuis toujours dans son village de Russie, savoir qu'une douzaine de vers ne peuvent pas indéfiniment ronger le même fruit. Voilà. Bon, alors aujourd'hui...
Et ce rapport au Mido, c'était il y a 50 ans. Hein.
C'était il y a 48 ans, je crois, 71, 72.
72.
Ouais. Ça, d'ailleurs, ça avait réagi très, très violemment à l'époque. Par exemple, un jeune économiste qui s'appelle William Nordhaus, qui avait fait de grandes équations avec un long papier en 1973 dans lequel il avait mis la backstop technologie. C'était une technologie qui allait fournir une énergie infinie avec des réserves infinies et qui serait totalement propre. Et grâce à cette technologie qui tue, eh bien, il avait montré qu'en fait, si la croissance infinie dans un monde fini était possible. Alors, Monsieur William Nordhaus, on peut l'excuser parce que ce jeune économiste, bien sûr, pensait à la fusion nucléaire comme tout le monde dans les années 70. Oui. Et donc, il a quand même eu le prix royal de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. dit prix Nobel d'économie en 2018. Donc vous voyez qui nos puissants écoutent encore aujourd'hui, des gens qui nous amènent et nous promettent la croissance infinie dans un monde fini. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, Luc Ferry dans Le Figaro faisait une tribune qui s'appelait « Pour une croissance infinie dans un monde fini ». Alors il est peut-être pas ingénieur, il est plutôt philosophe, hein, bon très bien. Mais voilà, on a quand même ce.
On
ce,
sent que
ce,
ça questionne la société depuis toutes ces années, ces décennies même, et que aujourd'hui encore, ça mérite certainement d'aller un peu plus loin sur les scénarios aussi, enfin qui sont proposés, les modèles et ce pourquoi d'ailleurs l'ADEME travaille notamment avec des chercheurs, des scientifiques bien sûr. Se pose quand même aussi une autre question quelle est la bonne échelle avant de répondre à cette question, je propose d'écouter ce reportage qui a été tourné à Los Angeles, ville pilote du développement durable depuis 1997 dans le Pas-de-Calais, par une équipe de France 3 Hauts-de-France et un reportage diffusé le 5 décembre 2018.
Depuis un an et demi, Dominique Da Silva, retraité, habite dans ce logement que l'on appelle éco-conçu. Pour se chauffer, elle paye moins de 150 euros par an, une facture divisée par 10 par rapport à son ancien logement.
Ici, il n'y a pas ni de radiateur, ni de tuyau d'arrivage, rien du tout, même pas de chauffe-eau. Dans la cuisine, vous pouvez regarder, il n'y a rien. Le seul chauffage qu'on a, c'est ce thermostat, cette ventilation et ces bouches d'aération.
Un système de chauffage qui fonctionne grâce à une pompe à chaleur collective dans l'immeuble. Le tout assorti d'une isolation thermique performante et d'un triple vitrage aux fenêtres.
Globalement, le développement durable appliqué à l'eau, il a créé de l'adhésion. Par contre, si on place cette question de la transition sous l'angle de la taxe, de la contrainte, de la morale, alors oui, on déclenche immédiatement des réflexes de survie chez certains qui n'ont plus de quoi finir leur fin de mois, ou des réflexes de grognons en disant, bah, en gros, on veut revenir au monde d'hier.
Et la ville de Los Angeles veut aller encore plus loin. Elle souhaite subvenir totalement aux besoins des habitants en électricité d'ici 2050 grâce aux panneaux solaires.
L'ambition, c'est d'équiper quasiment tous les bâtiments de la ville, les bâtiments publics, de panneaux solaires. Donc c'est 2500 m² de panneaux sur des écoles, sur des salles de sport, sur des salles de fête, etc. Dans le cadre de développer ce plan solaire.
Los Angeles, une ville minière devenue pilote du développement durable, sans pour autant toucher au porte-monnaie du contribuable.
Thibaut Faucon, la ville de demain, cette ville low-tech, est-ce que elle est réalisable partout ou alors il y a vraiment un seuil? Je crois que vous parlez du seuil peut-être de 100 000 habitants pour pouvoir lancer ces initiatives.
Oui, alors effectivement, quand on regarde un petit, on se réfère un peu aux auteurs qui ont réfléchi un peu à la question de la taille. Je pense notamment à Ivan Illich, à Ernest Schumacher, ou plus récemment Thierry Pacot, hein, qui est un philosophe urbaniste de l'Institut de Paris, l'Institut d'urbanisme de la ville de Paris, ou qui a fait un travail de recensement de toutes ces réflexions et qui fait ressortir un ordre de grandeur d'une fourchette. De l'ordre de quelques centaines de milliers de personnes pour une ville dite à taille humaine ou conviviale, dirait Ivan Illich. Donc effectivement, il y a un véritable enjeu aujourd'hui de revenir à des choses assez pragmatiques et essayer de caractériser une ville, ce que serait une ville low-tech physiquement, quelle serait sa taille, quelle serait sa densité, sa forme géométrique, est-ce qu'elle serait pas plutôt circulaire, avec un diamètre de 5 km pour être marchable et cyclable pour tous. Une réflexion aussi autour de la compacité pour optimiser l'empreinte carbone du bâtiment, par exemple. Donc une ville qui va mixer les fonctions résidentielles, les fonctions productives, les fonctions servicielles, et qui serait entourée d'une ceinture alimentaire de X kilomètres carrés de polyculture pour assurer la résilience alimentaire, qui est quand même la résilience prioritaire, à mon sens.
Oui, avec ce système des circuits courts.
Tout à fait, tout à fait. Et donc essayer d'élaborer un réseau de villes à travers donc des réseaux de transport bas carbone, le train, le bus, l'express, mais aussi le vélo et bien évidemment la logistique fluviale qui est aujourd'hui assez peu exploitée. Voilà.
Philippe Biwix, Los Angeles, on pense aussi à Grande-Synthe, etc. Ce sont des villes modèles et ça pose aussi quand même l'autre question, c'est le niveau politique qui peut ou qui devrait peut-être accompagner ces envies de la société, mais comment ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est, pour moi, ça illustre l'engagement de d'hommes et de femmes politiques locaux qui ont envie effectivement que les choses changent et qui embarquent formidablement les habitants. Mais effectivement, de la même manière que tout à l'heure, il fallait pas plonger trop vite sur juste la question technique et des objets en se disant que c'était plutôt une démarche. De la même manière, il me semble qu'on a un millefeuille d'échelle et que c'est ça qui rend les choses compliquées dans cette transition. Il va falloir manier les différents niveaux de manière coordonnée. Alors, vous avez évidemment ce niveau territorial. Qui est extrêmement intéressant parce que c'est là que se forme le tissu associatif, c'est là qu'on peut imaginer des initiatives de type recyclerie, ressourcerie, Repair Café, AMAP, circuit court, effectivement toute une série d'innovations organisationnelles, comme disait Thibault. Donc je ne sais pas, par exemple, les questions de tout ce qui peut se passer autour des magasins zéro déchet, du retour de la consigne, on voit des brasseurs locaux qui récupèrent leurs bouteilles, enfin il y a plein de choses qui se passent, mais il y a un moment où le niveau du dessus sera nécessaire, et le niveau du dessus c'est le niveau étatique, parce qu'il a dans sa main deux éléments essentiels. Un premier qui est la question réglementaire, la question normative, et Dieu sait que c'est important. On voit bien par exemple dans les traités internationaux maintenant, c'est pas forcément la question de tarifs douaniers qui se pose, c'est la question des normes. C'est finalement qu'est-ce qu'on appelle un poulet, qu'est-ce qu'on appelle un produit chimique, comment est-ce qu'il a été produit ou utilisé. Et puis là, il y a la question, fiscale. Donc, j'entends bien c'était le maire, je crois, qu'on entendait dans le reportage, oui. qui disait dès qu'on manie la question de la taxe, de l'interdiction, etc. C'est tout de suite un peu difficile, j'entends bien. Mais il y a un moment, si on modifie pas les conditions de température et de pression, compter uniquement sur la bonne volonté et la conviction de plus en plus de personnes qui pourraient finir par emmener la majorité, ça me paraît un petit peu juste. Et que si vous ne modifiez pas un certain nombre de paramètres, je vais vous prendre un exemple très simple, c'est la manière dont on arbitre aujourd'hui entre le travail humain d'un côté et puis la question des ressources et d'énergie. Aujourd'hui, l'ensemble des taxes, justement, elles portent essentiellement sur le travail humain. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les contributions sociales. Hein. En France, c'est 450 milliards d'euros par an. Et puis à côté de ça, vous avez les taxes environnementales. Une taxe environnementale, c'est quelques milliards d'euros, si j'exclus les taxes sur le carburant, et qui sont essentielles. Enfin, et la taxe carbone est là-dedans une partie la plus importante. Mais c'est quelques milliards d'euros. Donc on est en train de parler d'un facteur de 1 à 100. Qu'est-ce que ça implique, ce truc-là ? Ça implique que à chaque fois qu'on devra arbitrer pour réduire le travail humain et employer à la place des ressources et de l'énergie, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle faire de la productivité, c'est ce qu'on fait depuis deux siècles déjà, même un peu plus de deux siècles, eh bien on va le faire. Et que c'est toujours plus facile d'économiser du travail humain, c'est moins cher, et quitte à gâcher des ressources. Quand vous avez que 2 euros de matière première dans un smartphone, 2 euros, hein, tout métaux confondus, y compris l'or du microprocesseur, etc., eh bien, vous n'allez pas pouvoir mettre quelqu'un très longtemps avec un tournevis et une pince à épiler pour bien récupérer tous les petits trucs dedans. C'est pas possible, c'est pas rentable. Et donc, à cause de ça, il y a beaucoup de choses qui sont pas possibles. Pourquoi l'économie de la réparation est très difficile ? Eh bien, parce que c'est tellement plus simple d'acheter un nouveau fer à repasser plutôt que d'ouvrir l'ancien, de comprendre pourquoi il est en panne, de faire un devis, vous en avez déjà pour 50 euros, avant même de savoir si vous allez le réparer. Et donc ça, c'est bien un pouvoir qui ne peut être exercé qu'au niveau de l'État. Et d'ailleurs, c'est une chance, parce que c'est justement au niveau de l'État. D'ailleurs, c'est peut-être un des trucs qui fait que l'Europe marche pas si bien, c'est le problème de l'harmonisation fiscale. Donc on pourrait tout à fait commencer à orienter... alors évidemment, il faut que tout ça se fasse à la fois avec le bon niveau de redistribution et de justice sociale, naturellement.
Mais c'est ça. C'est peut-être que la transition écologique peut aussi avoir un volet social. L'un n'empêche peut-être pas l'autre.
C'est même indispensable. Je pense qu'on ne peut pas distinguer aujourd'hui la justice sociale de la justice environnementale. Et donc, il faut que ça se fasse comme ça. Mais il faudra effectivement être capable de donner in fine ces signaux pris pour que de plus en plus, les schémas de consommation s'orientent vers les produits et services bas carbone avec faible consommation de ressources. Et que du coup, derrière ça, en ayant modifié tout cet environnement, économique et financier, que les entreprises puissent s'épanouir ou changer de modèle d'affaires.
Thibaut Faucon, il est temps d'écouter votre choix musical. Et donc, vous avez choisi de nous faire entendre un groupe de rock, c'est ça ?
Tout à fait. C'est un groupe de rock anglais qui s'appelle Muse. Et je vous ai proposé d'écouter le titre qui s'appelle The Second Law Unsustainable et qui fait référence donc à la deuxième loi de la thermodynamique, qui est le principe d'entropie, la loi de l'entropie, et qui en fait nous explique que l'économie, enfin le modèle de croissance dont parlait tout à l'heure Philippe, est absolument insoutenable à long terme, et ça fait très largement écho aux conclusions du rapport Meadows de 1972.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Vous êtes bien sur France Culture et là, c'est la suite de notre magazine de l'environnement de cause à effet consacré au low-tech. Nous sommes en direct et en partenariat avec la coalition hashtag Sauver le Présent qui rassemble une fois par mois, je le rappelle, France Culture, Le Parisien, la revue Ouzbek Erika et le magazine Science et Vie Junior. Un dossier complet sur les low-tech à retrouver sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, low-tech, comment faire plus et mieux avec moins, que sont ces fameuses low-tech, quels modèles et quels scénarios s'invente derrière ce concept qui semble promettre une nouvelle économie et un mieux vivre sur une planète qui peine à répondre aux besoins des hommes. Et nous en discutons ce soir avec nos deux invités. Philippe Biwix, ingénieur centralien, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales et promoteur des low-tech, auteur notamment du livre « L'âge des low-tech » paru au Seuil. Et avec Thibaut Faucon, ingénieur à la direction régionale Île-de-France de l'ADEME, l'agence de transition écologique et coordonnateur du programme d'expérimentation de l'approche systémique de la transition écologique. Mais tout de suite, direction la rédaction du journal Le Monde, notre partenaire média, pour le coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et ce soir, c'est l'une des journalistes, Sophia Fischer. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Alors vous êtes notre œil du monde planète et votre choix s'est porté sur la vallée de la Roya et plus précisément le village de Tende d'où vous revenez. Et vous avez eu envie de porter le regard sur un habitant en particulier.
Oui, c'est exactement ça. J'ai eu envie de vous parler de quelqu'un. Il s'appelle Philippe, il est pompiste, il habite à Tende, donc dans la vallée de la Roya, comme vous l'avez dit. Et la première fois que je l'ai croisé sur le terrain, c'était avec ma photographe Jeanne Franck, juste après la tempête Alex, donc, qui a fait 7 morts et 11 disparus le 2 octobre. C'était après des pluies diluviennes, hein. Il faut savoir que c'était un phénomène climatique exceptionnel. On parle de 500 litres par mètre carré à certains, qui sont tombés à certains endroits. Les rivières se sont transformées en torrents qui ont tout emporté sur leur passage. Les routes, les voitures, les cimetières, les stations d'épuration, les maisons. Et quand j'ai rencontré Philippe, il n'y avait plus de route, donc plus d'électricité, plus de réseau pour dire aux proches qu'on avait survécu à la catastrophe. Les habitants de Tende, comme beaucoup d'autres dans les vallées, dépendaient des ponts aériens et donc des hélicoptères pour boire et pour manger. Et lui, il était là, motivé, de bonne humeur, peut-être même plus que les autres. Il avait compté les litres de carburant disponibles, il rationnait le matin, il déblayait l'après-midi. Et comme tous les habitants de Tende, en fait, il était à son poste très tôt. Et il n'avait qu'un seul objectif, c'était de remettre sa commune à pied.
Et oui, cette commune qui a subi un bilan terrible, hein, de 7 morts et 11 disparus, en tout cas au-delà de la commune, mais dans les dégâts dans la région. Aujourd'hui, après 6 semaines, que devient-il, Philippe ?
Ben, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Philippe, on l'a recroisé la semaine dernière, donc ça fait 6 semaines que la tempête a dévasté la Roya, et aujourd'hui, il déménage. Il en a marre. En fait, il se sent abandonné et il voudrait que tout ça soit terminé. Parce que même si l'eau potable et l'électricité ont été rétablies, la vie quotidienne reste très difficile sur place. Internet n'est pas revenu, la commune est toujours complètement isolée, enclavée en fond de vallée. Il faut savoir que quand Emmanuel Macron a parlé et venu, il a parlé de 3 ans avant de reconstruire une route. Sauf que l'hiver arrive, il n'y a plus de gaz à acheter, il n'y a plus de carburant. Les écoles ont réouvert avec quand même 30% des élèves en moins. Alors, Philippe a décidé de partir s'installer dans le sud-ouest avec ses deux jumelles.
Alors, selon vous, Sophia Fischer, est-ce qu'on doit parler de migrants du climat sur notre propre territoire ? On serait en train de vivre ça ?
Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Ça pose quand même la question de notre nouvelle normalité, toute cette histoire. Le maire essaye de minimiser le nombre de départs sur la commune. Il parle de 500 personnes sur 2000. Il martèle qu'il veut bien entendre que la vie va reprendre comme avant. C'est normal, c'est son rôle. Mais ce que ces départs racontent, en fait, c'est le début des déplacements de population ici, en France, à cause du changement climatique. Donc on n'est pas dans l'avenir ou dans un pays lointain. C'est vraiment quelque chose qui se passe ici. Et la colère de Philippe et de tous les autres que j'ai pu croiser sur le terrain, hein, je pense, est assez révélatrice sur le monde de demain. Les catastrophes vont se multiplier, ça on le sait. Ça impliquera des changements de vie pour tous, à commencer par ces zones comme l'arrière-pays niçois, qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Et sur place, personne ne comprend que les choses mettent autant de temps. La colère, elle est très forte et elle est terrible à entendre. Mais je pense qu'elle montre un certain décalage. On n'a pas encore conscience des exigences de reconstruction quand elle doit prendre en compte les réalités du monde de demain. On demande à l'État d'aller très vite, mais tous les techniciens sur place le disent, il va falloir prendre son temps parce qu'on ne peut pas reconstruire comme avant. Et les nouvelles infrastructures devront être plus résilientes, plus protectrices, quitte à l'être pour moins de monde.
Merci Sophia Fischer. Je rappelle que vous êtes journaliste correspondante pour le quotidien Le Monde et on suppose que vous allez continuer à suivre en tout cas ces personnes, ces habitants et ce secteur. Merci à vous et toutes les informations sur ce sujet, sur vos articles et vos réalisations sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
De belles truites, des carpes, pourtant Mathieu n'est pas pisciculteur, il est maraîcher. Dans ses bacs, il cultive ses aides jardiniers.
C'est la base du système aquaponique. C'est en nourrissant les poissons qu'on va indirectement alimenter les plantes. En fait, c'est l'effluent des poissons, l'eau des poissons qui, une fois filtrée, qui passe dans plusieurs filtres. Et l'effluent des poissons est transformé en matière assimilable pour les plantes.
Dans la grange attenante, d'autres bacs dans lesquels flottent légumes et semis, on appelle cela l'aquaponie.
On va semer de la cressolette carpe marocaine directement dans le substrat. Donc là, je fais un sillon. Donc l'eau est juste là, hein. Voilà. Là, on a un filet d'eau qui passe. Je mets mes graines.
Une fois sorties, les jeunes plants sont ensuite repiqués, non pas dans la terre, mais dans l'eau, enrichie par les poissons.
Notre vecteur de nutriments, ça va être l'eau. Là, on est sur ce qu'on appelle des rafts en polyéthylène expansé de qualité alimentaire.
Et tout pousse, sauf les légumes racines, salades aromatiques, même tomates ou fraisiers. Après seulement une année d'aquaponie, Élise et Mathieu sont conquis.
C'est d'abord une économie d'eau qui est non négligeable. On va utiliser 85% d'eau en moins que du maraîchage plein champ.
Et pas besoin de terreau, c'est plus écolo, pas besoin de désherber, c'est moins de boulot. Une fois filtrée par les racines, l'eau repart vers les poissons, une technique quasi inconnue en France.
Alors les gens, des fois, ont des questions. Est-ce que ça a quand même du goût? Culturellement, c'est compliqué de se dire que des légumes peuvent pousser sans la terre.
Ce reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine a été diffusé le 25 mai 2019. L'aquaponie, ou comment faire pousser des légumes grâce à des poissons. Concrètement, Philippe Biwix, donc innover, c'est réinventer nos modes de vie, mais aussi et surtout le monde du travail et de la production. Comment voyez-vous les métiers de demain?
Bah, je pense qu'il y a, je les pense sans doute très divers comme ils le sont aujourd'hui. Simplement, il va falloir réfléchir à un certain nombre de grands virages. Dans ces grands virages, il y en a un premier qui est le nombre de personnes qui travaillent la terre. C'est-à-dire qu'on a été extrêmement loin sur la productivité, là encore, et les dispositifs techniques d'ailleurs qu'on est en train de déployer. Dans la smart agriculture, dans l'agriculture 4.0, enfin on appelle comme on veut, hein, qui vont des drones qui se promènent pour vérifier les cultures en passant par toute une série de dispositifs ou de big data, c'est fait d'abord pour se dire que beaucoup moins de personnes peuvent exploiter, et le terme est important, toujours plus d'hectares. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'arrive plus à rémunérer justement ce travail humain et qu'il faut s'insérer dans une compétition mondiale, puisqu'une petite partie, mais c'est celle-là qui guide les prix, doit être exportée sur le marché mondial avec des prix qui sont imposés par d'autres qui eux-mêmes sont dans la course à la productivité. Donc il y a déjà une première chose, et c'est pour ça que je réagis au reportage, c'est effectivement comment on arrivera à transformer l'agriculture, évidemment pas en se remettant à faucher les blés à la main et avec de la traction animale, encore que ça puisse être intéressant dans un certain nombre de cas très précis, typiquement en maraîchage, mais globalement, y compris dans les grandes cultures, se poser des questions autour de l'agroforesterie, autour de la bonne taille, là encore il y a une histoire d'échelle, des champs, du retour des haies, de pas privilégier systématiquement des champs très grands et en longueur, qui permettent de faire moins de virages et donc d'être beaucoup plus productif et de passer beaucoup moins de temps sur les différents passages, mais au contraire de privilégier la polyculture et le mélange et la rotation des cultures pour lutter contre les parasites, les insectes, etc. d'une autre manière. Donc la première question, voilà, il y a une question sur qui est à la ville et qui est au champ intelligemment, et peut-être là aussi, on parlait tout à l'heure de la taille idéale des villes, mais je pense qu'il y a aussi une question de la revitalisation intelligente des campagnes et des villages. La deuxième chose, c'est la question du rapport au travail manuel. C'est-à-dire qu'on a quand même effectivement historiquement privilégié, si on fait des bonnes études, et ben on aura un travail intellectuel, et puis si on n'est pas bon à l'école, on aura un travail manuel, on ira travailler à l'usine, et puis même aujourd'hui, il y a moins d'usines, donc on ira faire cariste dans les entrepôts ou autre bullshit jobs, comme disait Thibaut tout à l'heure. Bon, et là, il faudra, voilà, est-ce qu'on est capable de retrouver, alors il y a ce livre qui a eu beaucoup de succès de Matthew Crawford, hein, Éloge du carburateur, qui compare et qui montre qu'en fait, il y a beaucoup de travail manuel, en tout cas anciennement ou historiquement, qui convoquait une richesse cognitive extrêmement importante, sans aller jusqu'au luthier qui allait choisir le bois sur son arbre pour tailler son violon. Enfin, en réalité, c'est plein de bois différents d'ailleurs, mais sans aller jusque-là, ne serait-ce qu'un réparateur, par exemple, va devoir avoir une intelligence devant une chaudière, un moteur, que sais-je, pour essayer de détecter la panne sans forcément en provoquer une autre par le fait qu'on va démonter des choses fragiles, etc. Donc il y a, et à l'inverse, les métiers de col blanc ont pas forcément aujourd'hui, à l'heure des processus un petit peu automatisés et guidés, sont pas forcément très très agréables. Je pense, dans des call centers ou dans des choses comme ça, ou dans certaines boutiques, on n'est pas forcément dans des dans des métiers forcément très, très sympathiques où on convoque beaucoup de neurones.
Mais alors quand on évoque aussi les arguments contre le modèle low-tech, Philippe Biwix, le chômage massif, hein, ça revient, on vous dit, bah, si vous fermez des entreprises et des secteurs high-tech, il y aura du chômage et pas forcément compensé par les nouveaux métiers low-tech, vous dites quoi?
Ben c'est ça qu'on doit changer, c'est-à-dire effectivement cette question de dire est-ce que la sobriété de consommation et donc de production est forcément génératrice de chômage. Et donc on revient à l'équation de tout à l'heure qui était la croissance et l'emploi, et donc s'il n'y a plus de croissance, il y a forcément crise économique. Mmh. Il faut qu'on invente un monde de post-croissance, de pleine activité, de plein emploi.
Avec des emplois locaux, du lien social, de la résilience qui pourrait permettre plus de travail pour plus de monde, c'est ça?
Bah oui, typiquement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut réduire un petit peu la productivité parce que justement si vous avez des exploitations agricoles de plus petite taille, ben ça sera plus enrichi en travail humain, hein. Une bonne tomate bien bio de pleine terre, elle convoque plus de travail humain que la tomate industrielle. Vous allez avoir tous les métiers de la réparation, vous allez avoir tous les métiers autour de la construction, et alors même si on construit moins, on peut quand même essayer d'embellir les villes ou de réparer les villes ou réparer les entrées de ville et tout ce qu'on... Là, il y a de quoi faire, et dans la réhabilitation, etc. Donc, et qui sont des emplois d'ailleurs pour le coup non délocalisables. Donc, il faut effectivement qu'on arrive à démontrer ça, parce que si effectivement on n'est pas capable d'inventer ce système-là, alors à ce moment-là, on est sûr d'aller dans le mur avec la puissance des exponentielles qui va se rappeler à nous. Hein. C'est juste, les exponentielles, la plupart des gens les ont découvertes avec la crise sanitaire. Hein. Quand vous multipliez par deux tous les 4 ou 5 jours le nombre de cas Covid ou de personnes qui rentrent à l'hôpital, les 5 premiers jours ça va, 10 jours plus tard ça va, 15 jours, 20 jours, 25 jours, et quand vous multipliez par 2, ça finit par faire très très mal très très vite. Et la croissance, c'est la même chose. 2% de croissance par an, c'est faire x2 tous les 37 ans. Ça veut dire que dans 1000 ans, il faudra 400 millions de fois plus de PIB, de consommation énergétique, à moins de se dire que on est capable de faire du découplage, hein, ce que les économistes nous promettent, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire ce découplage. On consomme plus de matières premières. On est dans un monde hyper industriel et pas dans un monde post-industriel. Et donc, qui peut croire qu'on arrivera à faire un découplage d'un facteur, non pas 4, mais 400 millions ou 1 milliard dans un millénaire, et qu'on sera toujours en train de rouler dans nos grosses voitures? C'est totalement hypothétique.
Thibaut Faucon, donc à l'ADEME, on a compris que vous aviez engagé en tout cas des financements, appels à projets, etc., allant dans le sens de ces low-tech. Est-ce que à ce jour, vous pouvez repérer des reconversions professionnelles qui se profilent ou qui semblent se profiler pour les décennies à venir?
C'est difficile à dire aujourd'hui. Non, c'est... Je pourrais pas vous répondre parce que...
Par rapport aux projets, en tout cas, qui ont été validés, hein, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux métiers à la clé et tout simplement peut-être aussi un enseignement qu'il faudra adapter, hein?
Oui, alors... Je saurais pas vous dire, Philippe. En fait. C'est encore très très flou aujourd'hui. Oui. Pour définir des métiers, moi, ça me semble très compliqué à prédire. Il y a un travail de fond à mener, et c'est vraiment l'un des objectifs de cette AMI, c'est d'essayer de définir ces métiers. Bien évidemment, je rejoins ce que disait tout à l'heure Philippe, il est évident que la fraction des emplois agricoles ou des emplois manuels, dans un contexte de contraction énergétique très forte, qui a permis la tertiarisation de l'économie, il est clair que dans un monde en décroissance, en descente énergétique et matérielle, les emplois manuels vont redevenir la norme. Alors peut-être que ça prendra la forme de bimétiers, par exemple, avec un métier plus manuel et un métier peut-être plus cérébral, qui combinera les deux. Je pense notamment à la permaculture, où il faut avoir des connaissances en botanique, voilà, très poussées, et aussi savoir utiliser intelligemment ses mains. Voilà, mais je pense que voilà, c'est ce genre de de structure de métier vers lesquelles on va s'orienter. Mais précisément, vous dire aujourd'hui à quoi ça va ressembler, c'est
difficile.
Très difficile.
Oui. Ouais. Philippe Biwix, peut-être que vous avez une réponse. Et puis, bien sûr, on se pose la question. Hein, c'est vous parliez de la pandémie de Covid-19. Est-ce que justement cette pandémie aujourd'hui, elle nous dit quelque chose ou elle nous montre quelque chose par rapport à l'adaptabilité ou l'inadaptabilité de ce modèle de société low-tech?
Oui, la pandémie nous dit plein de choses. Disons qu'elle a surtout enfoncé quelques tabous. Alors justement, la première chose, c'est que l'essentiel de notre réponse, bien sûr, si je mets de côté la partie très importante des personnes qui ont été hospitalisées, mais pour les personnes qui n'ont pas été hospitalisées, l'essentiel de la réponse, elle a été low-tech, justement. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez bien, au mois de janvier-février, quand le Covid n'était encore qu'en Chine, on voyait des reportages avec des robots, des drones qui surveillaient les gens dans les rues et des robots qui nettoyaient, qui désinfectaient les rues. Donc il y avait une espèce de fantasme de la réponse high-tech, et puis finalement la réponse elle est devenue très low-tech. Ça a été les gestes barrières,
les circuits courts,
la distanciation sociale, les circuits courts, les masques parfois d'ailleurs fabriqués en do it yourself, parce que en attendant ceux qui étaient aux normes et qui étaient encore en fabrication, et puis à un moment du réglementaire, mais alors dans la version effectivement très désagréable, qui s'appelle le confinement. Donc effectivement, qu'est-ce que ça dit? Alors évidemment, c'est encore une fois, c'est stupide. On va pas renoncer à la partie high-tech intéressante qui là pourrait prendre la forme d'un vaccin, par exemple. Mais c'est de se dire, il faut toujours mettre plusieurs fers au feu et croire que l'unique réponse technologique est la solution pose un vrai problème. Imaginons demain. Donc la question de la résilience, c'est la bonne question. Et imaginons demain qu'on ait effectivement des smart cities ultra optimisées, bourrées de voitures autonomes, tout à fait sympathiques, qui nous permettent de devenir tous covoitureurs et d'échanger notre énergie renouvelable les uns avec les autres dans un grand internet de l'énergie à la Jérémy Rifkin. Eh bien, si cette smart city elle est basée sur des capteurs fabriqués à l'autre bout du monde avec des métaux qui ont été extraits d'une trentaine de pays différents, dont la moitié est pas très stable géopolitiquement, avec des données stockées au Groenland et contrôlées par une multinationale californienne, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tout ça, c'est très résilient par rapport effectivement à ce que pourraient être les soubresauts, quels qu'ils soient, sanitaires ou autres, du 21e siècle? Et donc la question effectivement à ce moment de la relocalisation, d'un certain nombre de choses, de besoins essentiels, prend tout son sens. Et encore une fois, relocalisation ne veut pas dire repli sur soi ou autarcie. Il y aura toujours échange, il y aura toujours partage, mais simplement arrêter de faire sillonner la planète à toute une série de produits ou de sous-produits, sous prétexte que le pétrole ne vaut rien, quoi.
Ah oui, c'est toutes ces questions effectivement qu'on voit ressurgir, et notamment avec cette pandémie de Covid-19, hein, et ces questions aussi d'autonomie, de résilience, qui entrent dans cette problématique et qui rejoint aussi ce thème de low-tech. Merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission en direct. Philippe Biwix, je rappelle le titre de votre livre « L'âge des low-tech » paru au Seuil. Thibaut Faucon, merci à vous. Toutes les informations, les liens vous concernant et concernant l'ADEME, tout comme les bonus, les pépites hein, confiées à Naï, notamment sur le site, vous pourrez écouter un document, une petite interview avec Corentin de Châtelperron, l'un des porteurs de low-tech. Et bien tout le dossier complet aussi, hashtag Sauver le Présent, est à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de Cause à Effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition. Mardi prochain, l'enquête participative Il est temps et la génération climat seront au cœur de notre émission. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes, bien sûr, sur France Culture. Restez à l'écoute parce que dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction en compagnie de Stanislas Vazak.